En ce 25 février, c'est l'anniversaire du décès d'un des grands bénédictins de la fin et du début de ce siècle, dont Romain Banquet, fondateur d'un très grand monastère dans le sud de la France, le monastère d'Ancalcat. Ancalcat, dont le cœur des moines est remarquable. On en entend souvent des chants le matin de ces moines. C'est un immense monastère. Et le fondateur, dont Romain Banquet, a laissé un ouvrage publié en 1943, La doctrine monastique de Don Romain Banquet, fondateur et premier abbé d'Ancalcat, que j'avais acheté à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire à Noël 1949. J'étais allé célébrer la Noël avec les moines de Saint-Benoît-sur-Loire qui font partie de cette même congrégation de bénédictins différents, un peu plus sévères que la congrégation de France, congrégation de Solesmes, à laquelle appartient notre monastère de Saint-Benoît-du-Lac. Et j'avais été ravi par ce livre que j'ai traîné dans ma poche, il est tellement usé. On y trouve une très belle doctrine monastique de Don Romain Banquet, c'est ce que je voudrais vous livrer aujourd'hui. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Quand dans la revue de Saint-Benoît-du-Lac, Chercher Dieu, ce sont les cahiers de spiritualité monastique parus au printemps 96, j'ai vu qu'une religieuse avait fait une brève vie de Don Romain Banquet. Je me suis empressé de la lire et j'ai complété avec beaucoup de documents que j'ai. C'est une vie écrite par sœur Anne-Marie Fournier de l'abbaye Sainte-Marie des Deux-Montagnes. Et je m'en inspire donc pour cette émission. C'est une grande figure bénédictine que Don Romain Banquet. Et je dédie cette émission à l'un de ses moines, Michel Boussat. Michel Boussat était un ami d'enfance ici à Montréal. Je l'ai vu plusieurs fois. Il avait fait ses études à Stanislas, moi à Brébeuf, et il est parti à la fin des années 40 pour cette abbaye où il est devenu Don Albert. Et il a participé à la fondation d'un monastère en Afrique. Il vit maintenant en Ancalcat. Il est là, moine, depuis une cinquantaine d'années. C'était un garçon exceptionnel, remarquable, un Montréalais de grande qualité. En 1896, Don Romain Banquet a reçu la bénédiction abbatiale dans ce monastère de Saint-Benoît d'Ancalcat, qu'il avait fondé 6 ans plus tôt seulement, et déjà la quantité de vocations était surprenante. Alors, je vais vous rappeler cette belle figure d'abbé. 101 ans après cette consécration abbatiale, il s'appelait Louis Banquet, de son nom de baptême. Il est né en 1840 dans une famille du Languedoc, donc dans la région de Toulouse. C'est une famille foncièrement catholique que sa famille reçoit au baptême. À Ancalcat même, c'est là qu'il a été baptisé, il n'y avait pas d'abbaye évidemment, le prénom de Louis. Alors il s'oriente très tôt, dès sa première communion, vers le sacerdoce. C'est un vrai gamin, un bout en train, turbulent, même téméraire, énergique, mais un bon gars quand même. On l'aurait vu se faire soldat, embrasser la carrière militaire, quoi. Il en est tenté. Mais Louis Banquet renonce aux armes. Il surprend un peu tout le monde. Il entre au séminaire. Sous la soutane de séminaristes, car je vous rappelle les jeunes que les séminaristes portaient la soutane il n'y a encore pas très longtemps. Ça faisait très surprenant. Ça nous surprendrait aujourd'hui. Mais c'était comme ça. Et il reste insatisfait. Parce qu'il rêve de vie monastique. C'est une nature ardente, ce gamin, ce jeune homme. Il a besoin de servir, mais l'appel à une vie d'intimité avec Dieu se fait entendre. C'est curieux, cette vocation monastique. Et c'est comme ça. Tout au fond de son être, Dieu l'appelle. Et Dieu se fait insistant. Il raconte d'ailleurs dans son autobiographie, je cite, dès l'âge de 19 ans, le tabernacle était déjà devenu ce qu'il est toujours resté pour moi plus tard, le centre unique de ma piété, de ma vie intérieure. et sans aucune vue distincte et sans grâce sensible, c'est là que mon âme était captivée par un attrait mystérieux et dominant. Et c'est vrai que quand on apprend à se laisser gruger devant un tabernacle, où, comme vous savez, presque tout, j'espère, est enfermé dans un ciboire, dans un vase sacré, avec un couvercle, des hosties consacrées qui sont le corps vivant du Christ ressuscité. Il y a quelque chose qui se déroule malgré nous. Un séjour à la trappe Sainte-Marie du désert, puis la lecture de la vie du père Muard, que je vous raconterai un jour, le fondateur de la Pierre qui vire, un particulier qui a fondé l'abbaye de la Pierre qui vire. L'exemple d'un ami aussi, puis les conseils de son directeur, mais ça aide Louis Banquet à faire un choix définitif. Il sera bénédictin et mettra ses pas dans ceux du père Muard. Et à l'insu des siens, Louis s'échappe de son Languedoc, là, dans le sud de la France, c'est une région ensoleillée, ça. Et il part pour les plateaux brumeux et humides, comme dit la religieuse de Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes, ces plateaux brumeux et humides du Morvan. Si vous saviez comme c'est humide et épouvantable, là où est le monastère de la Pierre qui vire. Je me souviens d'y être arrivé au mois de juillet et il y avait encore de la neige sur le côté des pentes qui mènent au monastère. De la neige en juillet, vous vous imaginez? C'est terrible, c'est pas toujours comme ça, mais ça arrive. En tout cas, j'ai eu tellement froid, moi, dans ce monastère où j'ai vécu pendant un certain temps, en 1950, que je croyais en mourir. On a froid jusqu'aux os. On ne chauffait pas dans le temps. Alors il se rend là. Et le lendemain, il part donc là, le lendemain de son ordination au sous-diaconat. Il veut se faire moine. Et c'est l'avant-veille de Noël, le 23 décembre 1863, qu'il arrive à la Pierre qui vire. Il écrit « J'approchais sans les voir des murs du monastère. Lorsque mes yeux les distinguèrent à travers les arbres dépouillés, je tombai à genoux. Et dans un épanchement brûlant, à Saint-Joseph, à notre père Saint-Benoît et à notre père Muard, le fondateur, je priais assez longuement, demandant la grâce de mourir 1000 fois plutôt que de jamais reculer. » C'est un esprit décidé, comme on voit. Décidé, décidé, décidé. Hein? Et avec quelle confiance le jeune postulant, un postulant c'est quelqu'un qui postule, qui demande son entrée, là. Avec quelle confiance le jeune postulant remet l'avenir de sa vocation au père Muard, dont le souvenir était encore tout chaud au monastère qu'il avait fondé 13 ans plus tôt. Mais qui était donc ce père Muard? C'était un homme de Dieu, une sorte de charismatique, puisqu'on dirait aujourd'hui. Il était né au lendemain de la Révolution française. Et voulant travailler à la recristianisation de son pays, Jean-Baptiste Muard s'était engagé dans le sacerdoce. Il était fait prêtre. Puis, c'était vraiment un prêtre dévoré par le zèle des apôtres. Mais cet apostolat de la vie, de la prière, de la pénitence, là, une rigoureuse pénitence qui lui est apparue bientôt comme la source de l'efficacité de la prédication. C'est ce qu'il a fait. Il est devenu un homme de prière, un homme de pénitence, un prêtre consacré. Il croyait qu'il fallait plus de priants que de prêcheurs, plus de priants que de prédicateurs. Alors il fait un voyage providentiel à Subiaco, où je suis allé cet été, c'est magnifique. C'est ce monastère où s'était retiré Saint-Benoît, cette grotte, la grotte où il a fondé finalement l'ordre de Saint-Benoît, avant d'aller au Mont Cassin. Et ça, dans cette grotte qui est maintenant un monastère, ça a révélé à Jean-Baptiste Muard, l'abbé Muard, la règle de Saint-Benoît. Il l'a adoptée, puis il l'a proposée à quelques compagnons qui s'étaient joints à lui à la Pierre qui vire. Ils seront donc les bénédictins, il se donne un titre tout à fait typique de l'époque, du cœur sacré de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Ce sont des moines qui se veulent éducateurs, ils auront un collège, des moines qui conservent l'ancienne tradition des collèges monastiques. Mais le père Muard meurt prématurément à 45 ans sans avoir eu le temps de mûrir l'expérience très généreuse, puis même un peu excessive, où il s'est engagé. Son successeur immédiat va se mettre à Rome les constitutions élaborées par le fondateur. Mais Pie IX refuse de donner l'approbation. Il suggère plutôt le rattachement de la petite communauté à la congrégation de Subiaco, car il y a une congrégation de Subiaco en Italie, qui était récemment réformée par Don Casaretto. Alors, on accepte la décision du pape, mais c'est un lourd sacrifice. Or, arrive là le jeune postulant Louis Banquet. Il apprend à connaître les lieux puis les hommes. L'histoire, pas tout de suite. Il écrit « Je croyais que l'œuvre du père Muard était intacte, et sa grande figure dominait tellement pour moi tout le reste, que j'ignorais complètement pendant plusieurs années les amalgames survenus à Rome. Si j'avais compris, je serais reparti pour aller m'ensevelir à la trappe qui avait eu mes premières pensées. » C'est donc une espèce de bénédictin avec une certaine âme de trappiste que ce Louis Banquet, futur don Romain Banquet. Alors Louis Banquet est confié à un maître des novices à la pierre qui vire, un maître des novices trop timide. Il écrit « Après m'avoir laissé complètement à moi-même pendant une douzaine de jours, on me donna l'habit le 6 janvier 1864 et dès le lendemain, on me chargea d'une classe d'humanité, là, dans une diversification belles lettres, là, au collège, attenant au monastère de la pierre qui vire, dont je devais, dit-il, garder les élèves pendant 4 ans. À cet emploi intellectuel, on en ajouta plusieurs autres matériels. Et heureusement, j'avais fait, avant d'entrer, mon noviciat de la vie intérieure. » Alors, au noviciat, donc, il a reçu beaucoup de formation de vie intérieure par ce maître des novices qui était trop timide. Les exigences, évidemment, de l'enseignement, c'était énorme. Puis, il a eu à sacrifier, en somme, sa formation. Mais quand même, notre novice, qui répond maintenant au nom de frère Romain, entre généreusement dans le rite de la vie du monastère et il est ordonné prêtre en 1867 à 27 ans. Et le voilà engagé dans des missions paroissiales, parce que ces moines-là sortent du monastère pour aller prêcher dans des paroisses et aider le clergé séculier. Et elles vont se succéder à bon rythme, et elles alternent bientôt avec la prédication de retraite dans des milieux choisis. Alors notre jeune moine prêche dans des séminaires, des maisons religieuses, des pensionnats. Et c'est l'occasion pour lui de rencontrer des âmes d'élite. Et auprès d'elle, il acquiert là une expérience concrète de la vraie vie spirituelle. Elle lui sera extrêmement précieuse pour les tâches qui l'attendent, la fondation dans le Calcat qui va venir plus tard, et en même temps que cet approfondissement de la vie spirituelle et mystique dont Romain Banquet pénètre de plus en plus intimement la pensée du fondateur, le père Muard, et il peut constater l'écart regrettable entre le projet du père Muard puis la tradition monastique importée de Subiaco, et une aspiration naît en lui, revenir à l'intuition du père Muard, le fondateur. Dieu va lui donner le temps et le moyen d'agir. C'était les moines dans Calcat. Cet immense monastère, quand j'y suis allé en 1950, ils étaient certainement une centaine de moines. Et chose extraordinaire, le père abbé, qui était un comte, Marie de Fleuris, quand il sortait après la bénédiction de toute sa communauté, le soir après qu'on plie le dernier office, il sortait le premier de cette immense église et rendu à la porte, qui était portier? Son propre père, le marquis de Fleuris, qui était le dernier des frères converts. Et ce dernier des frères converts, debout, voyait le père abbé, son fils, se mettre à genoux devant lui et lui demander la bénédiction paternelle. C'était très émouvant. Alors, au lendemain de sa profession solennelle, Don Romain Banquet, il a 35 ans, c'est en 1875, il est nommé maître des novices. Puis il devient le bras droit du père abbé visiteur, Don Bernard Moreau, tant pour la cause de béatification du père Muard, qui, je ne crois pas, a été béatifié encore, que pour la révision aussi des constitutions de la congrégation qui s'appelle la congrégation cassinaise de la primitive observance. Parce que dans ces monastères, à l'époque, du moins, ils avaient le lever de nuit. Oui, se lever puis se recoucher. Une récréation par semaine d'une heure seulement. Alors, la pierre qui vire appartient à cette congrégation. Et non pas la congrégation de Solesmes, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ses fonctions qu'il a le désignent à l'attention d'un chapitre général réuni en avril 1877 à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. On doit pourvoir d'un prieur une nouvelle maison d'études qui a été créée à Saint-Pierre-de-Canon, au diocèse d'Aix-en-Provence. Alors il est promu à cette charge. Et puis il va revenir donc dans le sud de la France, où il est né, pour y vivre quelques années laborieuses, couronnées par une expulsion finalement, parce que le gouvernement de la Troisième République n'a que faire des moines. C'est la persécution que la France a été persécutée, hein, à la fin du 18e siècle, vers cette fin du 19e, au début du 20e, ils sont chassés constamment. Et le gouvernement, donc, ne veut pas de moines. Les étudiants gagnent l'Espagne. Les moines trouvent un gîte provisoire en Espagne. Et pendant cette période, bien, dont Romain Banquet assume la direction spirituelle d'une jeune fille, lui. Cette jeune fille, elle s'appelle Marie Crognier. C'est une âme extraordinaire que le Seigneur mène par des voies peu communes. Elle a des obligations de famille qui la retiennent dans le monde. Mais quelques compagnes se sont jointes à elle pour prier. Il y a un embryon de communauté qui se forme, qu'on appelle les bénédictines du Sacré-Cœur. C'est en train de grandir dans l'ombre tout ça, et dont Romain se charge de leur formation monastique. Il se charge de leur formation monastique absolument de façon admirable. Et je vous lis dans le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, La doctrine monastique de Don Romain Banquet, un tout petit passage. Il leur dit, c'est une témérité que de prendre les livres saints et de les lire comme on lirait un ouvrage ordinaire. C'est au point de vue spirituel une grande maladresse. Vous déchiffrerez les caractères, vous épellerez les syllabes, et vous ne comprendrez que ce que Dieu vous accorde de comprendre. Si, au contraire, vous priez avec humilité, eh bien, il donnera à votre âme de recueillir par le moyen du texte quelque chose qui lui est destiné de toute éternité. Votre lecture devient une lecture très personnelle, absolument, comme l'oraison. Elle s'adapte à votre état d'âme actuel, à votre capacité de compréhension, aux dispositions de votre cœur, et cela vous met en oraison. Or, l'Église en France, là, au sortir de toute cette tourmente révolutionnaire, avait été soulevée de grands désirs d'expiation, hein, de réparation, d'immolation. Ça caractérise assez la spiritualité de cette époque. Hein. Les grands mystiques comme les humbles fidèles en témoignent, on trouve ça dans les livres. À une religion qui est dominée par la majesté de Dieu, eh bien succède une vision christocentrée qu'on redécouvre l'homme-Dieu crucifié. Crucifié. Souffrant. Le Sacré-Cœur, qui est le signe de ralliement de la Vendée, près de la Bretagne, là, lors de sa révolte au moment de la Révolution française, est devenu l'objet privilégié du culte. Tout le monde parle du Sacré-Cœur, c'est pour ça qu'on parle des bénédictines du Sacré-Cœur, les bénédictines du Sacré-Cœur. Et c'est dans ce contexte de spiritualité ardente là, que le père Muard, fondateur de la Pierre qui vire, a jeté les bases d'une nouvelle famille bénédictine vouée au Sacré-Cœur. Et Marie Crognier, là, elle s'est sentie appelée très jeune à conduire les âmes au cœur de Jésus. Elle exprimait en trois mots sa devise et son programme de vie, amour, perfection, immolation. Alors, Don Romain Banquet déclarait à ses moines, dans ses entretiens spirituels, je cite, « Nous sommes les enfants du Sacré-Cœur par sa volonté, par la volonté de notre Saint Fondateur. C'est dans un mouvement de son cœur, par un appel bien distinct à Marie Crognier, qu'il a fait surgir les deux communautés. Vous êtes les fils du cœur de notre Seigneur, sous la règle de Saint Benoît. » Et dont cousin, un moine de la Pierre qui vire, dans un article ajoute, « À la vie intérieure, à l'enseignement traditionnel de la spiritualité monastique, il en fait le fondement de la sainteté. C'est la réponse nécessaire du moine et de la moniale à l'amour brûlant du cœur de Jésus, méconnu et outragé. Le cœur de Jésus est outragé. Et le père Muard est touché par le message de Sainte Marguerite Marie à la coque. C'est à sa suite que Don Romain Banquet infuse toute cette vivacité nouvelle, hein, à la vie intérieure du monastère. Et nous voilà devant une double fondation, dont Romain Banquet et Marie Crognier, bien, ils se sont nourris à la même table, ils se sont bu à la même source, leur spiritualité converge, une amitié profonde, mais toute surnaturelle, les lie, Et ça facilite la collaboration. Et peu à peu, ils prennent conscience qu'ils auront à réaliser ensemble une œuvre. Mais celle-ci va rester longtemps imprécise. Et c'est l'appel de l'archevêque d'Albi. Albi, vous savez, c'est dans le Tarn, justement dans la région de d'Ancalcate. C'était Albi qu'avaient les Albigeois. Il y a une cathédrale du XIIIe siècle très intéressante, là. Donc, l'archevêque d'Albi les appelle à une double implantation monastique dans son diocèse. Et ça va déterminer la phase des réalisations. Les supérieurs majeurs là, autorisent, dont Romain Banquet, alors il va faire de cette fondation un retour aux sources, une occasion de relancer vraiment l'œuvre telle que conçue par le père Muard, fondateur de la pierre qui vire. Et le 15 janvier 1890, à 50 ans, le premier coup de pioche là, ouvre le chantier à Ancalcate sous la direction de Don Romain Banquet. Il a 50 ans. Les murs montent. Les moines peuvent s'installer le 24 octobre, en quelques mois, quoi. 9 mois plus tard. 10 mois. Et puis, leurs sœurs sont à Dourgne. C'est pas loin, Dourgne. 800 mètres. C'est là que j'ai connu Marie-Noël. Oui, en 1950, la grande poétesse Marie-Noël. Elle séjournait là. Alors, donc les sœurs, elles ont enfoui des médailles dans une terre d'espérance. Moi, j'en ai mis beaucoup dans Radio Ville-Marie. Médailles miraculeuses. On me dirait que je suis un peu superstitieux. Pas du tout, j'ai fait ça en priant. Et le plan de leur monastère est laborieusement arrêté. Les travaux sont entrepris. Avec grand courage, ça travaille fort. Don Romain se fera lui-même maçon pour accélérer les choses. Puis là, finalement, bien en 1891, le 5 août, les lieux sont habitables. Enfin. Ça a pris un an. Un peu plus. Ce matin-là, les moniales, qui ont fait le trajet à pied à 4 heures du matin depuis leur maison provisoire dans le village, ont la surprise d'être accueillis au seuil de leur monastère tout neuf, par qui? Par Don Romain lui-même, Don Romain Banquet. Bien oui, il a passé la nuit en veillée d'armes. Vous savez, en veillée d'armes, comme faisaient les chevaliers, là, mais il était resté en prière toute la nuit sans dormir, attendant les moniales. Et quand il voit les 5 moniales derrière la double grille de clôture, il ne peut s'empêcher de leur avouer, en vous voyant pour la première fois, à travers la grille, j'éprouve un sentiment qui me fait comprendre le sacrifice des parents. On avait réalisé que l'essentiel des plans de l'architecte, les ailes mettront des années à se déployer. Puis les églises se dresseront plus tard. Et on peut dire qu'une fondation est assurée quand elle a définitivement son chef. Alors dans l'ordre spirituel, la pierre d'angle et la clé de voûte, c'est tout un. C'est le Christ. Et aussi, l'abba, ou l'abbé, le papa, qui le représente, le Christ. C'est ça, un abbé de monastère. Et pour les maisons de Saint-Benoît, donc, et de Saint-Scolastique, Saint-Benoît d'Ancalcate et Saint-Scolastique de Dourgne, c'est acquis. En 1896, il y a un peu plus de 100 ans à peine. Et elles deviennent, en effet, des abbayes puis des communautés. Très importante, qui vont choisir évidemment leur abbé et leur abbesse, et c'est un jour de liesse et de grâce que n'oublient plus ceux qui ont à les vivre, et la bénédiction abbatiale va suivre très près l'élection. Ce sont des fondateurs, dont Romain Banquet puis Mère Marie Cronier, qui se sont concertés, et alors ils deviennent abbé et abbesse de ces deux grands monastères. Je vais continuer. Alors pour les maisons, donc, ils sont un abbé et une abbesse. Et alors, l'abbesse devient abbesse avant l'abbé. C'est le père abbé qui lui offre ça par respect et par estime. Et puis, ainsi, le 23 septembre 1896, il y a eu 100 ans récemment, l'humble chapelle de Saint-Scolastique se dilate. L'ingéniosité des moines agrandit l'espace et l'entrain général fait le reste. Les abbés de Solesmes et de Montserrat assistent Don Romain. Et alors, l'archevêque d'Albi Monseigneur Fontenot préside la fonction. Les abbayes de la congrégation de Solesme, qui sont fraternelles depuis la première heure, se devaient d'être représentées, c'est évident. Et Saint-Pierre de Solesme l'était par la présence de son abbé, dont Delatte, et celle de Don Mocro. Don Romain Banquet, avec une femme, mère Marie Cronier, ont été consacrés abbé et abbesse des deux monastères qui sont à 800 mètres de distance seulement. Et ce qui nous permet, quand on va visiter l'abbaye d'Encalcate, de prendre connaissance du beau chant aussi démonial. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc, le 23 septembre 1896, dans la chapelle de Sainte Scolastique du monastère de Dourgne des Bénédictines, l'ingéniosité des moines agrandit de plus en plus l'espace et l'entrain général fait le reste, et les abbés de Solesme et de Montserrat assistent Don Romain, l'archevêque d'Albi préside la fonction. Là, les abbayes de la congrégation de Solesme, l'autre congrégation un peu moins sévère, mais si fraternelle depuis la première heure, sont évidemment représentées très dignement. Saint-Pierre de Solesme n'était par la présence de son abbé, le fameux Don Paul Delatte. Je vous prépare une émission sur Don Paul Delatte, qui a enchanté aussi ma jeunesse par ses écrits magnifiques. Et celle de Don Mocro, le célèbre grégorianiste auquel on doit tant pour la connaissance profonde du chant grégorien, Don Mocro. Quant à l'abbaye Sainte-Cécile de Solesme, qui est l'abbaye sœur de Saint-Pierre de Solesme, bien, c'est la révérendissime mère Cécile Bruyère. Je vous prépare aussi une émission sur Cécile Bruyère, qui était l'une des plus grandes bénédictines des temps modernes, qui était accompagnée de trois de ses moniales. Et tout ce monde était là avec des abbés et des prieurs de la congrégation cassinaise. Il y avait aussi l'abbé de la Grande Trappe, dont Étienne Salasque, qui était un abbé qui a laissé sa marque aussi chez les trappistes. C'était donc une famille de Saint-Benoît unique et multiple en même temps, qui chantait en plein cœur dans le modeste oratoire provisoire de l'abbaye inachevée. Tout ce monde unissait ses voix. Alors, Don Romain Banquet a été fortement marqué par le message de Marie Cronier, cette confidente privilégiée de notre Seigneur. Il est devenu de plus en plus un homme de vie intérieure et un maître d'intériorité. Voici en quelques mots ce qu'il leur enseigne. L'objectif constant du moine et de la moniale est le développement de la vie intérieure, c'est-à-dire de la relation intime à Dieu en Jésus, par Jésus, qui progressivement le purifie, le sanctifie et le transforme. La vie intérieure serait être considérée comme secondaire dans la vie monastique. Elle doit dominer tout le reste. Elle est souveraine. Et dans ce livre dont je vous ai parlé, La doctrine monastique de Don Robin Banquet, je retire ces paragraphes. Comment parvient-on à la conversion parfaite? Eh bien, Don Romain Banquet dit que la conversion simple et parfaite, c'est avec la haine et l'expiation du péché, l'adhésion perpétuelle à Dieu, dans un état de lutte pour le maintien de son règne et contre tout ce qui s'y oppose. Ainsi entendu, la conversion désigne et demande la pratique de toute la règle de Saint Benoît. Et de la sorte, ce vœu tend à nous introduire dans la vie mystique. Il y a une connexion intime, de nature, entre la vie mystique et le vœu de conversion des mœurs. Dans la vie mystique, écoutez bien ça, c'est très important, dans la vie mystique, l'âme se meut et se laisse mouvoir, principalement par l'initiative divine. L'âme est livrée sans réserve et Dieu, rencontrant cette fidélité, la conduit là où il veut. Le vœu de conversion des mœurs est l'excitation pour les âmes à ne jamais s'arrêter, à ne poser aucune limite à l'action de la grâce. Or, à mesure qu'elle avance, dit Don Romain Banquet, elle voit de la manière la plus distincte qu'elle est indigne, qu'elle n'a rien fait, que Dieu est bien bon de la supporter. Elles acquièrent de lui une connaissance tellement éclatante qu'à la lumière de la sainteté divine, elle voit dans ses actes de vertu surtout ce qui n'est pas et qui devrait être, ce qui conviendrait pour qu'elle pût se présenter devant la face du Seigneur et de ses vues que lui donne le rapprochement de Dieu jaillissent des excitations puissantes à toujours faire davantage. Il disait aussi ne rien préférer à l'œuvre de Dieu, hein, c'est dans la règle de saint Benoît. Il ajoute l'hommage de la louange est une nécessité sociale. Toute la raison d'être de la vie monastique, c'est la célébration de l'œuvre de Dieu. C'est se réunir au cœur et de chanter la gloire de Dieu, comme on fera au ciel pendant l'éternité, en somme. Hein. Alors l'office chanté par les moines, puisque le chant liturgique, comme dit Don Romain Banquet, est partie intégrante du culte qu'ils doivent à Dieu. Alors, pour en assurer la beauté, Don Romain Banquet se rapproche de l'abbaye de Solesmes, qui est au cœur du renouveau du chant grégorien et de la beauté du culte. Il encourage aussi les bénédictines du Saint-Sacrement à se mettre à la même école. L'office est non seulement prière sociale, mais expression personnelle. Il dit ce que doit dire le chant, c'est la note intime de l'âme. La psalmodie est l'exigence de la vie intérieure la plus pure et de l'union acquise. Et en page 85 de son livre, je tire ces notes magnifiques. Pour chanter dignement les louanges divines, il faut la plénitude du cœur humain, sanctifié par la grâce, avec tout le pouvoir qu'il a d'aimer, d'admirer et de remercier le Seigneur. C'est ce qu'on doit faire dans nos églises. C'est pas rien que pour les moines. Pour chanter dignement les louanges divines, il faut la plénitude du cœur humain. Le prêtre, là, le président de l'Assemblée, comme on dit aujourd'hui, le célébrant, doit avoir ça, la plénitude du cœur humain, puis nous transmettre ça à nous tous qui sommes dans l'assistance, là, sanctifiés par la grâce, avec tout le pouvoir qu'il a d'aimer, d'admirer, de remercier le Seigneur. Puis il dit que la psalmodie est une prière, elle devient un dialogue avec Dieu, c'est l'oraison. Je vous dis que c'est l'oraison, laissez-vous prendre. C'est la substance de l'oraison, l'âme vraiment fondue en Dieu. C'est l'oraison la plus complète, la psalmodie. C'est l'oraison la plus complète, la plus substantielle, la plus lumineuse, la plus concluante. L'oraison jaillit des entrailles de l'office divin. Voilà comment parlait Don Romain Banquet. Alors, le travail apostolique, la prédication de la pénitence, est inclus aussi dans l'idéal monastique du Père Muard et de Don Romain Banquet. Et Don Romain entre donc dans la pensée de son fondateur, en précisant le mode d'application. Il dit l'apostolat direct sera le fait de quelques moines seulement. Il réduit ça. Il ne veut pas que le monastère devienne une ruche trop active. Alors les retraites données dans les séminaires ou les communautés religieuses en seront une forme privilégiée, hein, de cet apostolat. Et l'apostolat liturgique en sera une autre. Il s'est développé rapidement et heureusement en Calcutta où les cérémonies sont magnifiques, c'est de toute beauté. Et cependant, les grâces obtenues par la prière puis la pénitence sont plus nécessaires que les prédications pour convertir les âmes. Et aussi, le rappel de la pénitence revient-il comme une constante chez Don Romain Banquet, qui est fidèle, lui, en cela, à son père Jean-Baptiste Muard, cet ancien prêtre séculier. Le climat religieux de l'époque va donc dans ce sens, même, il faut le reconnaître, jusqu'à l'excès. Il ne faut pas imiter tout ce qu'ils ont fait, dit et pensé, ces hommes-là. Mais Don Romain garde quand même l'équilibre. Aucun détail de la pénitence régulière ne dépasse la mesure des forces ordinaires, et il dit quelque chose qui ressemble beaucoup à sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Jésus nous demande surtout, écoutez bien ça, c'est le cœur de toute cette émission, Jésus nous demande surtout une immolation intime dans les petites vertus quotidiennes. Le martyr, qui était le désir brûlant du Père Muard, se consomme, dit Don Romain Banquet, dans une vie sans tache et entièrement donnée. Ça se fait dans le mariage, dans le célibat, dans la vie des frères enseignants, les jésuites, les particuliers, les évêques, tout le monde. Jésus nous demande surtout une immolation intime dans les petites vertus quotidiennes. Le martyr se consomme dans une vie sans tache et entièrement donnée. Alors, Don Romain Banquet comme je vous ai dit, était proche de l'idéal de la trappe par l'accent qu'il mettait souvent sur la pénitence. Mais il s'insère surtout dans cette grande et antique tradition bénédictine. Par le sens exact de l'étude dans la vie des moines, et par-dessus tout, il privilégie l'étude de l'Évangile. Il dit, c'est très beau, « L'Évangile est le livre par excellence des âmes consacrées. Je veux que mes moines deviennent des incarnations de l'Évangile. » Je veux que mes moines deviennent des âmes évangéliques. Il n'y a qu'une science, ajoute-t-il, celle qui vient directement de Dieu. L'objet de la science, c'est lui. Il s'agit de connaître Dieu, puis nous-mêmes et nos destinées. C'est dans la patrologie aussi, vous savez, les textes des pères de l'Église, les anciens textes des premiers siècles. Donc, c'est dans la patrologie que nous trouverons cette doctrine en toute sécurité. Alors, les moines dans Calcate, cette abbaye, je vous le rappelle, pour ceux qui sont en retard, se sont joints à cette émission un peu en retard, les moines dans Calcate, c'est une grande abbaye là, dans le sud de la France qu'a fondé Don Romain Banquet, dont il est question aujourd'hui. Alors, ces moines, tout à la joie de la récente bénédiction de leur abbé, Don Romain, mais reçoivent avec beaucoup d'avidité son enseignement. Ah, qu'on reçoit donc avec avidité quand on est moine l'enseignement de notre prieur ou de notre abbé. Je me souviens de Don Mercure à Saint-Benoît-du-Lac, de 44 à 46, nous avait donné des lectures spirituelles quotidiennes absolument sublimes. Alors, ils sont richement nourris, ces moines, d'accord, mais ils ne se doutent pas que le temps de l'abondance va être court. Il va leur falloir bientôt traverser un désert effroyable. Et en juillet 1901, vous savez ce qui va se passer, hein? Vous qui connaissez l'histoire de la France un peu, là. C'est la loi qui va être votée par le gouvernement français sur la liberté d'association. Cette loi qui est dirigée contre les congrégations religieuses. Leur offre pour alternative la disparition ou l'exil. Et dont Romain Banquet regarde le cœur serré, mais l'âme intacte, le monastère qui vient tout juste de s'agrandir. Et il dit, ce sera fait pour quand nous rentrerons plus tard. C'est ce qu'il dit tout simplement. Et le jour de Pâques 1903, il faut le faire, hein, ces policiers sont épouvantables, cette gendarmerie qui est obligée de obéir au gouvernement. Mais le jour de Pâques, le jour de la résurrection de Jésus en 1903, la gendarmerie offre aux moines un cadeau cruel, c'est leur décret d'expulsion. Quel beau cadeau de Pâques, quel œuf de Pâques. Et donc Romain part avec son cellerier, son économe, chercher un refuge en Espagne après beaucoup de démarches. Un hôtel désaffecté est loué dans les Pyrénées. Et puis, les moines vont y passer 5 années très difficiles avant de découvrir un vrai monastère dans la campagne en Catalogne espagnole, la splendide abbatiale de Besalú, une abbatiale du 11e siècle. Ils s'y installent en 1908. Pour combien de temps? On verra. Alors donc, ils sont expulsés, les moines. Et le soir du 1er août 1914, la guerre est déclarée. Alors les moines exilés, là, en Espagne et ailleurs, n'hésitent pas sur ce qu'ils ont à faire, l'un après l'autre. Les groupes se présentent à la frontière de la France pour répondre à l'appel de mobilisation. Alors on gagne en Calcate, où les bâtiments désertés ont été aménagés en hôpital sous l'administration des moines. Sur la 50aine de moines que compte déjà la communauté, 33 seront appelés au service pendant les hostilités. Et dont Romain, déjà vieux, juge opportun de s'installer chez les moniales à Sainte-Scolastique, qui, elle, était restée sur place. Il se trouve plus à la portée des moines mobilisés qui viennent en permission. La guerre terminée, il ne s'agit pas de demander l'autorisation du gouvernement pour rester. Les moines ont assez durement payé leur droit de retour. 10 d'entre eux sont tombés, morts, sur le champ de bataille. Ils sont donc une 40aine de religieux à s'adonner courageusement à la 2e fondation de l'abbaye dans Calcate. Les vocations arrivent en grand nombre. C'est une renaissance dont s'émerveille le père abbé. Et comme le vieillard Siméon, il avait attendu la consolation d'Israël et l'Esprit Saint l'avait conduit. Et en 1923, à plus de 80 ans, un accident cérébral détermine Don Romain Banquet à offrir sa démission d'abbé. Rome préfère lui donner plutôt un coadjuteur. La communauté choisit son prieur, Don Marie Cambaron. et bien conscient du poids de ses 83 ans, dont Romain Banquet préfère s'installer à côté, chez les Moniales, toujours à Saint-Benoît, chez les moines, n'était que chantier à ce moment-là, le monastère, hein, et le vieil abbé allait chaque jour pour conforter ses moines bâtisseurs, déjà tendus vers l'édification d'une belle église de style roman, qu'il voulait aussi belle que celle de Bessalou en Catalogne, en Espagne. Évidemment, le père abbé souffre de n'être pas au milieu de ses fils à longueur de jour, alors que renaît le monastère. Une dernière joie pour Don Romain fut la dédicace de l'église de Saint-Scolastique en septembre 1927. Elle le remplit d'espoir pour celle de la grande église de Saint-Benoît, du monastère des moines dont il bénit la première prière le 1er avril 1928. Et là, le 24 décembre suivant, il est frappé d'hémiplégie. Là, la cérémonie d'extrême-onction, le 28 décembre, au Grand Parloir. C'est l'occasion d'une dernière réunion des nombreux moines autour de leur vieux père. Il a ce mot qui sera retenu comme son testament. J'aime bien ça, je trouve ça extraordinaire. Il leur dit, il y avait Jésus qui a dit, « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. » Mais savez-vous ce qu'il dit, Don Romain Banquet, avant de mourir? Il leur dit, « Pas de médiocrité. » Je trouve ça extraordinaire. Pas de médiocrité. Ça devrait retentir partout dans notre cœur, ça. Dans toute l'église de Montréal. Pas de médiocrité. Les deux mois qui vont suivre seront très durs. Les dernières semaines, il n'avait plus qu'un mot sur les lèvres. Jésus. Le 24 février, la prostration augmente. Puis le 25 février, puis l'anniversaire aujourd'hui, il rend son âme à Dieu. Il était dans sa 90e année. Les monastères jumeaux, dans Calcat et Durne, se réclament d'un triple patronage. Saint-Benoît, le Père Muard, puis Don Romain. J'aimerais vous lire quelque chose de bien beau. Mais je vais terminer avant. On peut laisser une moniale de Dourne, l'abbaye voisine, une authentique héritière de cette grande lignée qui explique Benoît le sage, le père Muère, un fou de Dieu, puis Don Romain Banquet au centre. En somme, trois excessifs, trois hommes mordus d'absolu, trois fonceurs. Tous les moines, disent cette moniale, connaissent la profusion d'adverbes au superlatif dans la règle, pourtant renommée par sa discrétion. Chez Saint-Benoît, on ne marche pas, on court, c'est dans la règle. Si son vocabulaire est impératif, ajoute la moniale, son ascèse ne l'est pas moins, et c'est là que le père Muard l'a rejoint. Une obéissance qui marche jusque dans l'impossible, qui court, une pauvreté qui abandonne la possession de son corps. Et au bout, la charité parfaite, celle du Christ. Elle nous presse, dit saint Paul. Et la moniale termine en disant, « Don Romain s'est alimenté à la pierre qui vire, de ce que le père Muard avait puisé à Subiaco, et je vous rappelle, Subiaco, c'est là où, au début, Saint-Benoît, il y a 1500 ans, s'est retiré dans une grotte pour fonder cette grande famille des bénédictins, des cisterciens, des trappistes, des olivettins et d'autres moines qui suivent la règle de Saint-Benoît. Et la longue expérience de vie religieuse de Don Romain Banquet s'est donc étendue sur plus de 60 ans. Il a eu le temps de façonner en profondeur sa communauté, dont il a eu le gouvernement pendant 30 ans. Sa nature vive et bouillonnante, je vous l'ai dit, dans son jeune âge. C'était un méridional, comme on dit, un homme du Sud, vif, bouillonnant. Bien, la grâce l'avait employé à ses fins, Dieu l'a utilisé, ça, cette nature vive et bouillonnante. Puis l'ascèse monastique avait tout maîtrisé ça. Et la physionomie de Don Romain était grave, presque solennelle, mais l'accueil affable Sa parole était cordiale. Son aisance était parfaite parce que son cœur était pur comme une source et son esprit droit comme la vérité. Dans la liturgie aujourd'hui, tout s'applique à ce moine. Il est bien dit qui offre le sacrifice d'action de grâce. Celui-là me rend gloire, ainsi dans le psaume d'aujourd'hui. Et il est dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez à sa place l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Et à la communion, aujourd'hui à la messe, ça s'applique tellement bien à Don Romain Banquet. De toute mon âme, Seigneur, je rendrai grâce en proclamant tes innombrables merveilles. J'exulterai, je danserai auprès de toi, je fêterai ton nom, Dieu très haut. Eh bien, ceux qui aiment les moines bénédictins, soyez bien à l'écoute ce soir à 9h à Radio Ville-Marie. Qu'est-ce qui va se passer? C'est notre merveilleux Jean-Pierre Noiseux, fin connaisseur en musique, qui choisit d'ailleurs la musique de mes émissions. C'est sa belle émission hebdomadaire, l'offrande musicale. Il faut écouter ça ce soir à 9h. Il aura comme invité Don André Laberge. Donc, Don André Laberge, prieur de Saint-Benoît-du-Lac, maître des novices, grand bénédictin s'il en est au Québec, va être l'invité de Jean-Pierre Noiseux ce soir à 9h à l'émission l'offrande musicale à Radio Ville-Marie.